Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah n'a jamais révélé, ni dans la Torah, ni dans la Bible, ni dans les psaumes, ni même dans le Coran lui-même, une sourate semblable à celle-ci. Elle est la mère du Coran. Les 7 versets répétés se divisent en 2 moitiés entre Allah et son serviteur », rapporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i. Sourate Al-Fatiha est la toute première sourate du Coran. Certainement la toute première sourate que tu as mémorisée, que tu as apprise, la sourate d'ouverture du livre d'Allah. Elle porte bien son nom, car Al-Fatiha, l'ouverture, vient du verbe Fataha, en arabe qui veut dire ouvrir. Elle a de nombreux surnoms, dont Al-Qur'an, ou encore Al-Kitab, la mère du livre, la mère du Qur'an, la mère du livre de ton Seigneur. C'est une sourate dite courte, qui ne comporte que 7 versets, et chacun de ces versets est extrêmement lourd de sens. Tu la récites au minimum 17 fois par jour dans tes 5 prières quotidiennes. C'est la sourate la plus récitée au monde. Mais est-ce que tu sais ce que tu dis? Est-ce que tu as conscience de la valeur, de la grandeur et de l'ampleur de la puissance de Sourate Al-Fatiha? Est-ce que tu réalises vraiment ce qu'est cette sourate? D'après Anas, le prophète sallam informa un compagnon que la meilleure sourate du Coran, celle qui est au-dessus de toutes, c'est Al-Fatiha, rapportée par An-Nasa'i. Elle ne fait que 7 versets. Et pourtant, elle est la meilleure sourate de tout le livre d'Allah. Elle est supérieure à toutes les autres. Pas dans le nombre de versets, mais dans le mérite et le poids de son statut. C'est pour ça qu'elle figure en tête de livre, car elle ouvre le Coran. Toutes les autres sourates viennent après elle. Ibn Abbas rapporte qu'un jour, l'ange Jibril était assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soudain, un vacarme venant du ciel retentit. Jibril leva la tête et dit alors, « C'est une porte du ciel qui a été ouverte aujourd'hui. Elle ne l'a jamais été auparavant. » Un ange en descendit. Jamais il n'était descendu sur terre auparavant. L'ange les salua et dit au prophète, « Réjouis-toi, car tu as reçu ce qu'aucun prophète avant toi n'a reçu. Il s'agit de l'ouverture du livre et des derniers versets de la sourate Al-Baqarah. » Rapporté par Muslim. C'est une sourate si grandiose que lorsqu'elle a été révélée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une porte du ciel s'est ouverte, ce qui n'avait jamais été le cas avant. Un ange qui n'était jamais descendu sur terre avant la révélation d'Al-Fatiha a fait son apparition et les a salués spécialement pour la révélation de Sourate Al-Fatiha et des derniers versets de Sourate Al-Baqarah. Et Allah fait mention de Sourate Al-Fatiha dans le verset 87 de la Sourate Al-Hijr en disant « Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète ainsi que le Coran sublime. Les 7 versets que tu répètes inlassablement dans chacune de tes unités de prière et que tu répéteras jusqu'à ton dernier jour sur terre. » Sourate Al-Fatiha est indispensable à l'accomplissement de ta prière. Elle en est un des piliers majeurs. Elle est un des piliers fondamentaux du deuxième pilier de l'islam. Sans elle, ta prière n'est pas valide. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith, il a dit « Quiconque accomplit une prière sans y réciter la mère du livre, alors elle est déficiente, elle est déficiente, elle est déficiente, elle est incomplète. » Rapporté par Muslim. Il a insisté en disant, en répétant, en appuyant sur le fait que ta prière est déficiente, ta prière est incomplète si tu ne récites pas la mère du Coran. C'est le minimum que tu dois réciter pour qu'elle soit valable. La récitation d'une autre sourate après Al-Fatiha est une sunna, ce qui est obligatoire. C'est la récitation de Sourate Al-Fatiha et en son entièreté. C'est le minimum requis pour que ta prière puisse être acceptée d'Allah. On commence par le premier verset. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, le premier verset de Ummul Qur'an, c'est la basmala, qui fait partie intégrante de la sourate. La basmala, c'est une formule que tout musulman prononce au quotidien, à plusieurs reprises, avant de manger, avant de boire, avant de dormir, avant de sortir. Lorsque tu la prononces, la basmala, c'est que tu t'apprêtes à faire une action au nom d'Allah, bi-ismillahi, le tout miséricordieux, ar-Rahman, le très miséricordieux, ar-Rahim. Au nom d'Allah, je m'apprête à manger, car c'est lui qui me nourrit. Au nom d'Allah, je m'apprête à boire, car c'est lui qui m'abreuve. Au nom d'Allah, je m'apprête à dormir, car mon âme remonte à lui pendant mon sommeil et revient à moi au moment du réveil. Au nom d'Allah, je sors et je recherche sa protection et je me réfugie auprès de lui lors de ma sortie contre le mal de Shaitan. En réalité, Al-Fatiha commence par le Tawhid. Au nom d'Allah, Allah qui est ton Seigneur, hein, la divinité, l'unique, le digne d'adoration, le seul qui la mérite, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. On reviendra sur ces noms Ar-Rahman et Ar-Rahim dans le troisième verset. Ensuite, deuxième verset. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Alhamd, la louange, toute la louange, tous les éloges, tous les mérites et toute l'exaltation sont et reviennent à Allah. C'est celui et c'est le seul qui mérite d'être loué pour la perfection de ses noms, de ses attributs et la perfection de ses actions et de sa création. Il est le seul qui mérite d'être loué pour ses dons et ses bénédictions en abondance. Tu loues ton Seigneur, tu lui es reconnaissante, tu le remercies pour ce que tu es, pour ce que tu as et pour ce que tu fais, pour ce qu'il t'a donné, ce qu'il te donne encore au quotidien et ce qu'il te donnera. Alhamdulillah, tu le loues, tu le remercies pour le simple fait qu'aujourd'hui, tu es en vie. Alhamdulillah, tu as la santé, tu bois, tu manges, tu vois, tu entends, tu disposes de tous tes sens et de toutes tes facultés. Tu rends la louange et la grâce à Allah, car il t'a donné l'islam comme religion. Alhamdulillah, toutes ces choses sont des bénédictions de la part de ton Seigneur qui peuvent te paraître banales et anodines, car elles font partie de ton quotidien. Tu les perçois donc comme une norme, pendant que d'autres n'y ont pas accès et en sont privés. Et quand bien même tu serais éprouvé, tu continues de rendre la louange et la grâce à ton Seigneur en toutes circonstances. Car, subhanallah, l'épreuve est un bienfait. Les éprouvés sont les privilégiés d'Allah. L'épreuve est une marque de considération du Seigneur des mondes envers son serviteur. Lui seul mérite que tu le loues dans tout et pour tout, parce qu'il est à l'origine de l'existence de tout ce que tu existes et de tout ce que tu possèdes. Il est le maître des mondes, le Seigneur des cieux et de la terre, le maître, le Seigneur de l'ici-bas et de l'au-delà. Il est celui qui a tout créé. C'est Allah seul qui a créé tout ce que contient l'univers, à savoir les humains, les djinns, les animaux, la végétation, les mers, les océans, le vent, les nuages, les montagnes, tous les éléments de la nature, le soleil, la lune, les étoiles, tous les astres, toutes les constellations. C'est Allah qui a créé la vie et la mort, et c'est lui seul qui a le pouvoir de donner la vie et de la reprendre quand il le souhaite. C'est Allah qui a créé les choses concrètes et abstraites, et c'est lui seul qui maintient tous ces éléments en place dans un parfait équilibre. Subhanallah, il gère sa création avec perfection. Et c'est facile pour lui. Il lui suffit de dire à une chose, « Kun fayakun », soit et elle est. Troisième verset, « Ar-Rahmani Ar-Rahim », le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sourate al-Fatiha débute par la basmala. Dans la basmala, la première chose que tu évoques, c'est la rahma, c'est la miséricorde d'Allah. Et peu importe la sourate en question d'ailleurs. Toutes les sourates débutent par ces deux noms d'Allah. Ar-Rahman, par la mention de ces deux noms d'Allah dans la basmala, Ar-Rahman et Ar-Rahim, excepté dans Sourate Tauba, Sourate Tauba n'a pas de basmala. Ton Seigneur est tout miséricordieux, très miséricordieux, dans son essence et dans ses actes. Ar-Rahman, c'est celui qui fait preuve de miséricorde envers toutes ses créatures, ici-bas, de manière générale, et qui fera miséricorde uniquement aux croyants dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'Allah a doté les humains d'intelligence et de raison. Il a mis à notre disposition la terre sur laquelle tu vis et, subhanallah, un nombre incalculable de bienfaits dont absolument tout le monde profite et jouit au quotidien. Tous les éléments qui t'entourent sont une miséricorde de sa part. Et c'est une miséricorde, encore une fois, dont l'ensemble des créatures bénéficie une miséricorde globale. Dans le verset 156 de la sourate Al-A'raf, Allah il dit « Et ma miséricorde embrasse toute chose ». Et puis même dans sourate Ar-Rahman, Allah il décrit tous les bienfaits, toutes les faveurs dont il fait grâce à ses créatures. Lorsqu'il dit dans les versets 1 à 7, le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran, il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux, et l'herbe et les arbres se prosternent. Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut et il a établi la balance. Et ensuite, dans les versets 10 à 13, quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. Il s'y trouve des fruits et aussi les palmiers aux fruits recouverts d'enveloppes, tout comme les grains dans leurs balles et les plantes aromatiques. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Tandis que Ar-Rahim, c'est celui qui fait preuve de miséricorde dans l'au-delà, une miséricorde qui sera spécifique et réservée aux croyants yawmul qiyamah, le jour du jugement. Et Allah il le dit hein, dans le verset 43 de la sourate Al-Ahzab, wa kana bil mu'minina rahima. Il est miséricordieux, rahima, envers les croyants. Toutes les créatures, tous les humains bénéficient de la rahma, d'ar-Rahman ici-bas, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans, mais seuls les musulmans bénéficieront de la rahma, d'ar-Rahman et d'ar-Rahim dans l'au-delà. Les autres ne pourront pas en bénéficier. Allah est tout miséricordieux, très miséricordieux, envers le croyant, al-mu'min, et le croyant en Allah, c'est le musulman, c'est la muslima. Et de sa miséricorde découle sa bonté, sa clémence, son indulgence, son pardon et sa générosité qui sont sans fin. Celle dont on bénéficie ici-bas, la rahma d'Allah dont on bénéficie, là maintenant, n'est qu'un morceau de l'étendue de sa miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit « Allah détient 100 miséricordes. Il en a fait descendre une parmi les djinns, les humains, les bêtes, les reptiles et les insectes. C'est grâce à elles qu'ils font preuve d'affection et de miséricorde les uns envers les autres. C'est grâce à elles aussi que la bête sauvage éprouve de la compassion pour son petit. Mais Allah a réservé 99 miséricordes avec lesquelles il fera miséricorde à ses serviteurs au jour de la résurrection, rapporté par Muslim. Subhanallah. Quatrième verset, Malik Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Ce verset débute par le nom d'Allah, Al-Malik, qui se rapproche de Malik, qu'on retrouve hein, également à plusieurs reprises dans le Coran, qui veut dire roi ou souverain. Comme par exemple dans le verset 116 de la sourate Al-Mu'min, que soit exalté Allah, le véritable souverain, Al-Malikul Haqq, pas de divinité en dehors de lui, le seigneur du trône sublime. Tandis que Al-Malik, c'est plus intense, c'est plus fort, si je peux dire ça comme ça. C'est traduit par le maître, qui englobe aussi l'attribut de royauté et de seigneurie et de souveraineté. Hein. Al-Malik, c'est le maître suprême du royaume, du monde, de l'ici-bas et de l'au-delà. Comme il le dit dans le verset 26 de la sourate Al-Imran, « Oh, dis, oh Allah !» Maître de l'autorité absolue, Malik al-Mulk, tu donnes autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux, le bien est en ta main, et tu es omnipotent. Al-Malik a l'autorité absolue, l'autorité complète, l'autorité totale, sur ses créatures et sur sa création. C'est lui seul qui aura l'autorité absolue, Yawmuddin, le jour de la rétribution, le jour où il n'y aura de rétribution que la sienne. Le jour où il rétribuera ses créatures, les récompensera ou les châtiera en fonction de leurs actions et en parfaite équité, en parfaite justice. À lui reviendra le jugement ultime, le seul maître du jour des comptes, du jour dernier, du jour de la résurrection, le jour où ce que tu avais commis ici-bas aura sa rétribution dans l'au-delà, le jour où toute l'humanité, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des hommes, aura son verdict et dont le seul juge suprême sera Allah. Le fait de réciter ce verset dans chaque raka'a, dans chaque unité de prière, est censé te faire rappeler constamment l'arrivée de ce jour, qui est une réalité et auquel tu crois, hein, car il fait partie des piliers, des six piliers de la foi. Allah te prévient, il t'avertit, il te dit, alors tu dois te préparer. Ce verset doit t'encourager à faire le bien et à t'éloigner du mal, à t'éloigner du péché autant que possible, parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'Allah va reprendre ton âme. Tu ne sais pas quand est-ce que ton passage sur terre prendra fin. En revanche, tu sais que des choses t'attendent après ta mort et dans l'au-delà. Alors, tu dois anticiper ton avenir. Cinquième verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et de toi seul dont nous implorons le secours. C'est ton Seigneur qui mérite que tu l'adores. Et c'est de lui seul que tu implores le secours et de manière exclusive. Tu adores ton Seigneur dans ce que tu dis et dans ce que tu fais, dans la parole et dans les actes. Tu ne peux pas uniquement prétendre adorer Allah, non. Il faut que les actes suivent. Tu l'adores, alors tu le pries. Tu jeûnes pour lui, tu donnes pour lui, tu invoques en son nom, tu espères en lui, tu places ta confiance en lui, tu t'en remets totalement à lui. Tu le crains et tu as la certitude en lui. Tes adorations, que ce soit celles des membres ou celles du cœur, sont vouées à ton Seigneur, et tu ne recherches que sa satisfaction et son agrément en craignant son châtiment et sa punition. Ce n'est que de lui que tu demandes de l'aide, car rien ni personne ne peut te secourir comme lui. Il est le seul qui peut te secourir des tourments de la tombe. Il est le seul qui peut te secourir de la catastrophe du jour du jugement, te secourir lors de la traversée du pont Es-Sirat et te secourir du feu de l'enfer. Tu échapperas à toutes ces choses que par le secours d'Allah, que par l'aide d'Allah que tu dois sans cesse implorer. Sixième verset, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Donc là, dans le verset que je viens de te lire, le verset précédent, En fait, implorer le secours d'Allah revient à lui demander de te guider dans le droit chemin. Car les personnes secourues sont les personnes bien guidées. Tu demandes à Allah de te montrer, de t'indiquer et te faciliter l'accès à ce droit chemin. Tu lui demandes de te préserver de l'égarement du droit chemin. Qu'il te raffermisse dans cette voie, parce que tu sais, subhanallah, personne n'est à l'abri de rien. Aujourd'hui, tu es guidé et demain, tu es égaré. Et qu'Allah t'en préserve. Hein. Donc, tu demandes qu'il te raffermisse dans cette voie jusqu'à ce que tu le rencontres. Et le droit chemin, qu'est-ce que c'est? C'est l'islam, la seule religion agréée d'Allah. L'itinéraire de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui, incha'Allah, te mènera au paradis. Un serviteur d'Allah ne peut être heureux et comblé qu'en suivant le chemin tracé par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est mention de droit chemin dans Sourate al-Fatiha, c'est aussi une métaphore au pont Es-Sirat, qui est le pont qui sera placé au-dessus de l'enfer le jour du jugement. Pont que tu devras obligatoirement traverser pour accéder au paradis. Et quand tu dis Ihdina as-sirata al-mustaqim, tu demandes à Allah de te faciliter aussi la traversée de ce pont, car tu n'auras d'autre choix que de l'emprunter pour parvenir au paradis, que tu as convoité toute ta vie. Tu demandes à Allah de te guider lors de sa traversée et de te préserver de tomber dans le gouffre de l'enfer. En t'écartant du droit chemin, en t'écartant de la bonne voie et en t'égarant ici-bas, tu t'égareras également dans l'au-delà lors de la traversée du Sirat. Et enfin, septième et dernier verset, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Chemin de ceux que tu as comblé de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Tu recherches la guidée d'Allah dans le chemin suivi par ceux qui sont comblés de ses faveurs, à savoir les prophètes, les véridiques, les personnes pieuses et vertueuses, parce qu'ils sont les bien guidés et les bien aimés d'Allah. Ils sont comblés de faveurs ici-bas par leur statut et seront comblés dans l'au-delà par la grande récompense qu'Allah réserve. Tu en souhaites de même pour ta personne. Et c'est la raison pour laquelle tu invoques ton Seigneur de te préserver, de suivre le chemin de ceux qui ont encouru sa colère. Et qui sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah? Les mécréants, les hypocrites, les transgresseurs, les pécheurs. Parmi eux, on a deux catégories. Ceux qui se détournent de la vérité par orgueil, ceux qui donnent des associés à Allah, ceux qui adorent autre qu'Allah, ceux qui lui attribuent un fils, ceux qui refusent de reconnaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier des messagers. La deuxième catégorie, ce sont les personnes qui se sont laissées égarer par les passions et les tentations de ce bas monde. Celles qui se sont éloignées d'Allah et de la pratique religieuse, qui se sont attachées à la dunya au point d'en oublier à la akhira, et qui vivent dans l'insouciance la plus totale. En vérité, Sourate al-Fatiha est une dua, c'est une invocation dans laquelle tu demandes à Allah de purifier et préserver ton âme et ton cœur de l'obstination, de l'ignorance et de l'égarement. C'est pour ça qu'à la fin de la sourate, on dit « Amin » en espérant qu'Allah nous exauce. Et subhanallah, c'est une demande que tu fais au minimum 17 fois par jour, tout au long de ta vie. Et plus tu invoques, plus tu as de chances qu'Allah t'exauce. Il y a autre chose de très 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 important qu'il faut que tu saches concernant Sourate al-Fatiha. Et il me semble que je t'en ai déjà parlé dans les épisodes sur la prière. Mais c'est pas grave, je t'en reparle encore, hein. De toute façon, c'est tout le concept d'un rappel. Lorsque tu la récites, en réalité, tu as un échange avec ton Seigneur, subhanallah. Un dialogue que tu ne peux pas percevoir, mais que tu peux ressentir avec ton cœur et ton âme. Abu Huraira rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Allah a dit « J'ai divisé la prière en deux moitiés entre moi et mon serviteur. Et mon serviteur recevra ce qu'il demande. » La prière est divisée en deux. D'un côté, la demande du serviteur, donc la dua, et de l'autre, l'écoute et l'exaucement d'Allah. Quand le serviteur dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin »« Louange à Allah, le Seigneur des mondes », Allah dit « Hamidani abdi, mon serviteur m'a loué. » Allah écoute, Allah entend la louange que tu lui rends chaque fois que tu le pries. Il y est attentif et il y répond en te disant « Mon serviteur m'a loué. » Quand le serviteur dit « Ar-Rahman ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, » Allah dit « Athna alayya abdi, Mon serviteur m'a exalté. Allah écoute, Allah entend l'exaltation que tu lui fais. Et il y répond en disant, mon serviteur m'a exalté. Quand le serviteur dit, Maliki yaoumiddin, maître du jour de la rétribution, Allah dit, Majjadani abdi, mon serviteur m'a glorifié. Ou dans une autre version, mon serviteur s'est soumis à ma puissance. Fawada ilayya abdi. Tu reconnais sa puissance, sa toute puissance, et tu t'y soumets. Tu sais et tu reconnais qu'il est le maître de l'ici-bas et de l'au-delà, qu'il sera le maître et le juge suprême du jour de la rétribution. Allah t'entend et il te répond. Mon serviteur m'a glorifié, mon serviteur s'est soumis à ma puissance. Lorsque le serviteur dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » c'est toi seul que nous adorons et de toi seul dont nous implorons le secours, Allah dit « Hadha bayni wa bayna 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala » ceci est entre moi et mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Subhanallah, cette demande est entre moi et mon serviteur, est uniquement entre nous deux. Elle ne concerne que nous deux, et il aura de ma part ce qu'il a demandé. Et enfin, lorsque le serviteur dit « Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. » Allah dit « Hadha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala » ceci est pour mon serviteur, et mon serviteur recevra ce qu'il a demandé. Cette demande est pour mon serviteur, et assurément qu'il aura ce qu'il a demandé, assurément que je l'exaucerai en le préservant de l'égarement et en lui accordant la guider ici-bas et la victoire dans l'au-delà. Hadith rapporté par Muslim. Et subhanallah, est-ce que ce hadith ne te fait pas penser à un verset dans Sourate al-Baqarah, quand Allah il dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. » C'est incroyable. C'est comme si ce verset était un résumé de ce hadith. Et quand tu regardes bien, finalement, Sourate al-Fatiha est un exposé de l'unicité d'Allah, de son unicité dans l'adoration, dans sa seigneurie et dans ses noms et ses attributs. Voilà tout ce qui se passe lorsque tu récites Sourate al-Fatiha en prière. Voilà tous les trésors et les pépites qu'elle renferme. On a tendance à la réciter machinalement, par habitude, parce que c'est une sourate qu'on connaît par cœur, qui est ancrée en nous, mais dont on ne mesure pas forcément l'ampleur. Alors j'espère que, Inch'Allah, cet épisode t'aidera à mieux la comprendre et à mieux vivre ta prière. Ok ? Je tiens juste à préciser, parce que je ne l'ai pas dit en début d'épisode, c'est pas un tafsir que je suis en train de faire, c'est juste une méditation des versets de Sourate al-Fatiha. Je te remercie de ton écoute, ma sœur. N'hésite pas à partager, à laisser des étoiles, à laisser des petits cœurs, à laisser des commentaires et à me suivre sur mes réseaux sociaux. وبارك الله فيك وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته